Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec un hôtelier, il s'appelle Adrien Glohagen et c'est le fondateur de Touriste. Il va nous expliquer ce que c'est que Touriste. Salut Adrien.
Bonjour.
Je crois que c'est la première fois que j'ai un Adrien dans le podcast. On est deux Adriens aujourd'hui.
Super club.
C'est la folie. Première question, est-ce que tu pourrais te présenter?
Je m'appelle Adrien et donc je suis hôtelier à Paris et j'ai créé il y a quelques années le groupe Touriste.
Très bien. Et deuxième question, est-ce que tu pourrais revenir sur ton cheminement, sur toute ta vie en fait, depuis ta plus tendre enfance?
Ok.
Qu'est-ce qui t'a amené à...
Le temps des dinosaures.
Ouais, à devenir hôtelier.
Écoute, je suis hôtelier depuis 12 ans maintenant, je me suis lancé en 2008. J'avais repris un premier hôtel dans le 14e, j'avais 25 ans. Et en fait, toute l'histoire, c'est que j'ai atterri là un peu par hasard. Je me suis retrouvé en fait, quand j'avais 18 ans, à faire un stage d'été à Londres. Ouais. Et c'était dans une auberge jeunesse et j'ai adoré le concept de l'auberge jeunesse. C'est-à-dire que tout le monde dans les clients était jeune, les gens qui bossaient étaient jeunes. Il y avait une super ambiance pendant que j'avais tous mes potes qui étaient soit à la City, soit à la Défense ou des choses comme ça à l'époque. Nous, on était, voilà, il y avait toujours, j'étais entouré de gens jeunes et surtout des gens qui avaient voyagé. Et il y a un truc qui n'existe pas trop en France, mais c'est qu'après le bac dans les pays anglo-saxons, il y a l'année de césure. Et donc, en fait, c'est tout ce microcosme qui tourne autour des auberges jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils partent pendant un an, en gros, faire un espèce de tour du monde. Soit ils s'arrêtent dans des pays, ils bossent 2-3 mois, ils changent de pays, ou ils bougent. Mais en tout cas, ils ont toujours plein de choses à raconter. Et dans cette auberge, en fait, on se retrouvait tous les soirs, je sais pas, vers 17-18 heures, et à boire des coups avec l'équipe et à boire des coups avec les clients, en fait. Et donc, ils racontaient tous leurs souvenirs de voyage et de périples autour du monde qui me faisaient un peu rêver. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est marrant parce que j'entends toujours parler de Paris comme étant la capitale la plus touristique du monde et tout ça. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y avait pas d'auberge jeunesse en cette époque-là. Donc, c'était en 2001, 2002 et tout ça. Et donc du coup, en fait, il y avait des auberges jeunesse, mais il n'y avait que des choses soit associatives, soit religieuses. Il n'y avait pas de trucs un peu marqués, brandés et tout ça qui pouvaient être un peu marrants. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, puisque j'ai l'impression d'avoir vu un manque dans un secteur et que ça m'intéresse vachement et que ça me plaît, je vais essayer de me lancer là-dedans.
Ouais.
Je passe le bac, je fais mes études. Et pendant mes études, je me dis, bon, du coup, puisque ça me plaît, je vais tout étudier dans l'hôtellerie, essayer de voir un maximum de choses. Et donc, voilà comment c'est parti.
Donc, tu fais une école hôtelière?
Je fais une école de commerce.
Une école de commerce, ok.
Voilà, généraliste. Et au fur et à mesure de ces études, tous les stages, les projets d'équipe, les thèses, les choses comme ça, j'essaie de tout faire autour de l'hôtellerie. Donc, je vois tout, du truc beaucoup plus classique. J'ai travaillé chez Relais Château, jusqu'au petit hôtel indépendant, jusqu'au groupe familial, jusqu'au voilà, plein de choses. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que les auberges jeunesse, c'était pas aussi facile d'accès que ça. Et donc, du coup, je m'oriente vers une hôtellerie plus classique. Donc, qui dit hôtellerie plus classique, c'était plutôt de reprendre un petit hôtel en deuxième, troisième zone de Paris, mal géré, pas géré, peu géré,
ouais,
par des personnes âgées et tout ça, et de pouvoir le reprendre, le recommercialiser et le remettre sur le devant.
D'accord. Pendant toutes ces expériences et tes stages là, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu apprends et qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que j'imagine que tu avais quand même cette envie de peut-être disrupter un peu ce truc là, l'hôtellerie à un moment donné, avec tes alors, yeux de jeune homme de moins de 20 ans, qu'est-ce
alors,
que tu dis?
Alors pas trop en fait, j'avais pas cette ambition là, en tout cas j'avais une envie beaucoup plus terre à terre en fait, c'est là que je voulais vraiment ma grande idée personnelle, c'était d'être indépendant. Donc je voulais vraiment faire mon petit truc et tout ça. Je voulais pas aller travailler chez quelqu'un d'autre, je voulais travailler chez moi. Ça, c'était vraiment le leitmotiv.
Ouais.
Et puis, j'avais pas d'envie de révolutionner quoi que ce soit. Il fallait plutôt que je fasse ce que je pensais savoir faire et de le faire un petit peu mieux que les autres.
Ok.
Donc voilà. Et puis, en fait, l'idée de la décoration, l'idée du repositionnement et tout ça des hôtels est venue un peu après.
Ok.
Voilà, sur le deuxième
d'accord,
hôtel.
D'accord, très bien. Et donc ce premier hôtel, t'as 25 ans. Raconte-nous, quel hôtel tu rachètes, d'où sortent les fonds, ça coûte quoi? Je ne me rends pas compte de ce que ça peut représenter d'acheter un hôtel.
Alors, j'avais l'hôtel, il s'appelait le Sophie Germain, rue Sophie Germain dans le 14e, à Mouton-du-Vernay. J'ai 25 ans, en gros, et l'idée, c'était de racheter donc à un couple qui avait 85 ans, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Il n'y avait pas d'ordinateur à la réception. La déco n'avait pas été refaite depuis plus de 35 ans. Il y avait, il y avait juste un planning papier-crayon et tout ça. Comme
on prenait les réseaux au téléphone.
Les réseaux au téléphone et par fax.
Ouais.
Et voilà, que des choses qui ne se faisaient absolument plus. Et moi, j'ai commencé par acheter l'hôtel. J'avais un petit peu d'argent, de famille. J'avais 250 000 euros exactement à l'époque. Ce qui est beaucoup pour une personne
aussi jeune, ouais.
Aussi jeune, mais ce qui en même temps dans le milieu de l'hôtellerie et tout ça est assez faible aujourd'hui. Et ça représentait, je ne sais plus exactement les chiffres, mais peut-être 13% d'apport sur l'hôtel.
Okay.
Pour moi, ces 250 000 euros, j'ai l'impression que c'était un peu le bout du monde. C'était, voilà, j'étais assez sûr, assez gonflé et tout. Je me suis pris pas mal de bananes au début parce que j'ai eu 6 refus de banque.
Okay.
Et c'est la 7e banque qui a accepté de me prêter pour acheter l'hôtel.
D'accord.
Donc ça a été la première déconvenue.
C'est quoi les ratios dans l'hôtellerie, les banquiers, ils te prêtent quoi? C'est quoi l'apport?
Je sais rien, ça change vachement. Et puis c'était pas du tout pareil à l'époque aussi. C'est-à-dire que ce que j'ai fait à l'époque serait impossible aujourd'hui.
Okay.
Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait plus faire quelque chose comme 50-50. 50% d'apport, 50% de banque.
Okay.
Les 13% de l'époque étaient un truc qui est illusoire aujourd'hui.
Ouais, okay.
Mais j'ai galéré quand même. Et en fait, j'ai galéré à tel point que le banquier qui me faisait confiance me dit « Ok, on va te prêter l'argent pour acheter, mais comme t'es trop juste, on va pas te prêter l'argent pour faire les travaux. »
Ah.
Donc comme moi, mon idée étant d'acheter quand même un hôtel pourri et de le rénover, de le refaire, de le repositionner et tout ça, j'étais pas mal emmerdé, mais j'ai quand même accepté de le faire parce que j'avais pas trop le choix. Et en fait, et le banquier me dit « Si au bout d'un an, t'arrives à faire les chiffres que tu nous as promis, on te prête pour faire les travaux. » Donc je suis parti bien en tête là-dessus, peut-être un peu inconscient ou un peu foufou, mais voilà, toujours pareil, j'avais pas le choix et le défi m'a amusé. J'y suis allé et en fait, je me suis défoncé pendant un an et j'ai réussi à faire les objectifs et à maintenir les prix que j'avais annoncés à l'époque au banquier. Et lui a tenu promesse aussi, donc il m'a prêté l'argent pour faire les travaux l'été d'après.
Trop cool.
Et voilà comment c'est parti en fait.
Et là, ça part. Cet hôtel, il y a combien de chambres? Tu fais tout seul? Tu fais réception, chambre? T'as une équipe déjà?
Il y a 33 chambres. C'est un petit 3 étoiles.
Ouais.
Donc, je garde 3 étoiles, 33 chambres. Il y avait déjà une équipe, puisque quand on reprend un hôtel, en général, on reprend l'équipe qui va avec. C'est juste qu'il n'y avait pas de direction, puisque la direction, c'était les propriétaires. Donc, eux partent au moment de l'acquisition. J'en deviens le directeur et je rencontre une réceptionniste qui s'appelle Sophia à l'époque et qu'on évolue ensemble et elle passe assez rapidement directrice de l'hôtel.
Ouais.
Et aujourd'hui, elle est toujours directrice dans un de mes hôtels au Panache, c'est la directrice du Panache. Donc, on a évolué ensemble et voilà comment ça s'est passé.
D'accord. Et pour revenir sur ton histoire avec le banquier, ce qu'on appelle le trade-off, dans la négo, tu l'as un petit peu expliqué, mais pourquoi il ferait confiance à un mec de 25 ans, quoi? Ça me paraît complètement hallucinant quand même. Le mec a été couillu quand même à l'époque.
Ouais. Il a été couillu, c'est pour ça que j'ai eu du mal aussi à financer. il n'avait aucune raison de faire confiance particulière. C'est, ouais. Je pense que c'est aussi le métier d'un banquier, c'est de prendre des risques. Ils sont censés être payés pour ça.
Ouais.
Et puis voilà, et c'est, sauf que c'était un banquier qui faisait beaucoup d'hôtels.
Okay.
Qui était dans le 9e, maintenant qui est parti à la retraite, mais qui faisait beaucoup d'hôtels. Et donc du coup, je pense qu'il a vu le potentiel de l'hôtel, en fait. Il a vu la dynamique que je pouvais apporter et le potentiel de l'hôtel. Et donc du coup, c'est parti comme ça. Et c'était quand même un prix assez raisonnable à l'époque. Et donc du coup, ça s'est déroulé ainsi.
Ouais. Et donc tu fais tes travaux l'été suivant.
Je fais mes travaux l'été suivant. Et ensuite, les chiffres augmentent toujours.
Ouais.
Ça va de mieux en mieux. Et là, on est parti sur un nouveau. Voilà, on est sur les rails au bout de 2 ans. Ouais. Ça se passe hyper bien et tout ça.
Et tu l'avais déjà positionné. Enfin, tu l'avais rebrandé. Ou c'était vraiment. Il était propre, quoi.
Il était très propre et j'avais pas beaucoup d'argent pour faire la déco non plus. Donc ouais. Pour tout te dire, qui était une erreur à l'époque, mais. Voilà, c'est comme ça. Et parce que j'avais pas l'argent, mais j'ai pas refait les salles de bain. Tu vois, j'avais pas assez pour faire les salles de bain, donc on a refait juste la sécurité parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. Et on a refait la déco des chambres.
D'accord.
Donc du coup.
Un petit coup de propre, quoi.
Ouais, un petit coup de propre. Et puis on est reparti comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé pour l'histoire, c'est que c'est au bout de 3 ans, c'est le banquier qui de nouveau m'a rappelé et qui m'a dit: bon, bah, Glowagen, j'ai l'impression que ça marche bien pour toi. Je vais t'aider à financer le deuxième.
Trop bien.
Donc en fait, c'est comme ça que c'est parti. Et le deuxième, je l'ai financé sans argent. Je l'ai financé en fait avec c'est le premier hôtel qui était caution, qui s'est porté caution du deuxième hôtel.
Ok.
Et on a pu démarrer comme ça en fait.
Et ça, c'est.
Et là, c'était l'hôtel Paradis.
Ouais.
Et c'est un peu là où ça a vraiment explosé tout ça pour moi.
Raconte-nous l'histoire de l'hôtel Paradis. Maintenant, je me rappelle, j'avais écouté cet épisode. C'était un épisode de Nelly Roddy, je crois. Tu te faisais interviewer par Nathalie Rosborski, qui est passée sur ce podcast. Et j'avais écouté cette interview avec beaucoup d'attention, mais maintenant tout revient. L'hôtel Paradis, c'est vrai que là, t'as mis un grand coup de pied dans l'hôtellerie parisienne à l'époque, non? Il me semble que c'était vraiment quelque chose de très novateur, très nouveau. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait avec cet hôtel Paradis?
Alors, l'hôtel Paradis, pour la petite histoire, c'est un hôtel qui était à vendre depuis très longtemps, qui s'appelait le Caravelle avant. Et nous, là, pour le coup, on a vraiment tout rebrandé, tout changé et tout ça. Et moi, j'étais au fin fond du 14e, donc à l'opposé. J'appelle les agents immobiliers, je leur dis: bon, bah voilà, j'ai la possibilité d'acheter un deuxième hôtel grâce au banquier. Qu'est-ce que vous avez? Et le type, au bout d'un moment, il y en a un qui me dit: écoute, il y a un hôtel dans le 10e, personne n'en veut, mais c'est dans tes moyens, le quartier n'est pas encore génial, mais viens voir. Je me voyais pas du tout dans le 10e, je connaissais pas du tout, voilà, à part aller voir des coups, j'avais rien d'autre à faire dans le 10e et tout ça. J'y vais quand même, et en fait, j'ai un énorme coup de cœur pour cet hôtel. Et un coup de cœur qui m'a conforté parce que déjà il y avait une vue au dernier étage, il y avait une super vue sur Montmartre. Et en fait, quand je suis sorti de l'hôtel, je vois dans le local d'à côté un type qui sort et qui s'appelait Pierre Jeancou et qui était en train de visiter le local d'à côté. Et en fait, je me présente, j'étais fan de sa cuisine, j'étais déjà allé dans ses restaurants. Donc je me présente, je lui dis que je suis en train d'acheter cet hôtel. Il me dit que lui, il vient d'acheter le local. Et qui est devenu après vivant. Et donc du coup, je me suis dit: tiens, si lui s'installe là, il y a peut-être quelque chose à faire. Parce que ce qu'il faut imaginer à l'époque, c'était en 2011, dans le 10e, en tout cas la rue des Petites Écuries, c'est qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose en termes de commerce, de restaurants et tout ça.
Ouais.
Ce qui est complètement différent aujourd'hui. Mais il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, je me dis: tiens, si lui s'installe, il va peut-être se passer un truc. Il a peut-être un regard. Et c'est un peu parti comme ça. Et je me suis dit: bon, bah, on y va, banco. La petite différence avec mon premier hôtel, c'est étant dans le 10e, je me suis dit qu'il fallait que je travaille beaucoup plus sur la déco. Quelque chose qui me plaît, déjà. Et qu'il fallait que j'y pense, que j'y travaille, que peut-être que je fasse appel à quelqu'un d'expérimenté pour redécorer, redesigner tout l'hôtel.
C'est vrai qu'il fallait avoir le nez fin, parce que mais même aujourd'hui encore, je trouve que cette rue des Petites Écuries, elle est pas évidente. Enfin, le haut est évident, le bas est quand même moins évident. C'est vrai que vivant, Da Graziella, etc., a apporté vachement de fraîcheur. À l'époque, je sais même pas s'il y avait Da Graziella déjà, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une évidence. Et encore, je suis pas sûr. J'ai l'impression que dans ce quartier, finalement, la rue du Faubourg Saint-Denis est celle qui draine le plus de gens. Peut-être la rue du Château d'Eau
et le
début de petites écuries. Mais après, c'est pas si évident que ça. Et tous les commerces qui se ouvrent, rue Paradis, etc. C'est pas si simple que ça.
Non, je suis d'accord avec toi. Déjà, ça a beaucoup évolué, vraiment en 10 ans.
Ouais.
Mais il y a encore beaucoup de boulot. Ça évolue en bien, mais il y a encore du boulot à faire. Et puis ça va se faire petit à petit, mais effectivement, il y a encore des choses.
Mmh. Sur l'histoire du positionnement, du positionnement et la déco, etc. Moi, j'aimerais que tu nous réexpliques un petit peu, parce que ça s'appelle entreprendre dans la mode, mais c'est entreprendre dans l'hospitality, dans le lifestyle. Mais comment on fait, comment on rend un hôtel viable, quoi? Grosso modo, c'est quoi le business model? Qu'est-ce qui fait qu'un hôtel fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'un hôtel gagne de l'argent ou pas? Et j'aimerais bien qu'on redécoupe un petit peu tout le business model, finalement, le positionnement, le marketing, l'acquisition, comment on s'y prend, quoi.
Ouais, on pourrait en parler, mais là, ça va durer 3 jours. Non, mais en gros, c'est que ce soit un hôtel ou que ce soit n'importe quel business, je pense que c'est, en tout cas, ça me paraît pas hyper compliqué. C'est par rapport au coût. C'est là qu'il faut faire gaffe, comme toutes les entreprises, comme tous les projets, globaux, de combien on achète, de pas acheter trop cher, de pas trop dépenser dans les travaux, pour que on puisse être rentable, assez rapidement, quoi.
Ouais,
le plus vite possible. Et donc c'est ça, ce qu'on essaye de faire, de bien acheter, de faire des beaux travaux, mais pas des travaux délirants. Voilà.
Et c'est là qu'il faut s'écouter. C'est là qu'il faut faire des choix dans la déco et dans le choix du décorateur, justement. L'Hôtel Paradis, tu prends quelqu'un de connu, un nom, une plume, ou pas du tout?
L'Hôtel Paradis, j'ai pris quelqu'un qui à l'époque n'était pas très connu, qui s'appelait Dorothée Melikson, qui maintenant est une star.
Ouais.
Et du coup, elle n'avait pas fait d'hôtel, c'était un peu son premier gros projet, je pense. Et c'était assez marrant de travailler ensemble parce que tous les deux, on était assez jeunes dans cette expérience-là et que c'était quelque chose d'aussi bien nouveau pour elle, je pense, que pour moi. Et donc ça s'est très bien matché et ça a été un énorme succès. Pour être honnête, j'avais pas imaginé une seule seconde que le Paradis serait un tel succès en le lançant.
C'est quoi, ça veut dire quoi, un hôtel qui a du succès?
Déjà dans la presse, c'est-à-dire qu'il y a eu du succès dans la presse. On a eu, je sais plus, peut-être les 6 premiers mois, on a eu quelque chose comme 400 articles de presse. Une fois dans ma vie, j'avais pensé prendre un jour une attachée de presse, par exemple. Et puis que les chiffres, ça a très très bien marché tout de suite, quoi. On a rempli l'hôtel tout de suite. Je me rappelle, il y a les producteurs de Kanye West avant la fin des travaux qui sont venus pour visiter parce que Kanye West voulait écrire un album à Paris et il voulait le faire au Paradis. Il y a la chanteuse Mia qui est venue dormir avant la fin des travaux. Voilà, il y a eu un espèce d'engouement, mais qui est parti en 2 minutes.
Et c'est quoi ça? Ça vient c'est un coup de bol monumental ou tu penses que tu as réussi à teaser le truc?
Non, honnêtement, il n'y avait rien de calculé, rien de truc. Je pense que c'est coup de bol, j'en sais rien, mais c'est un alignement des planètes. C'est-à-dire que ça a été un des premiers hôtels un peu moyenne gamme avec de la déco dont on a parlé. Je pense qu'il y a un côté aussi le quartier qui montait. Il y a eu un côté de plein de petites choses qui ont fait que ça a marché très vite. On est sorti dans Vogue, dans Wallpaper et tout ça. Et donc, du coup, ce qui était assez nouveau, en fait, pour un petit hôtel parisien. Et donc, il y a eu un engouement très vite, Surtout pour les étrangers.
Ouais. À l'époque, tu prends tout de suite un attaché de presse ou ça se fait naturellement, là? C'est du boucherie?
J'ai pris un attaché de presse, mais qui est Julie, ma femme, qui était attaché de presse chez Hermès.
D'accord.
Et qui voulait monter sa boîte. Et je lui ai dit, écoute, si tu cherches un premier client, je vais être ton premier client. Parce que là, je n'arrivais pas du tout à gérer les demandes entrantes et tout ça. Donc, on a eu, je ne sais plus, 400 articles les premiers mois. Et c'est elle qui s'en est occupée. Et qui, après, c'est parti très vite, quoi.
D'accord. Et la suite des événements, alors qu'est-ce qui se passe après le Paradis? Tu l'as revendu depuis?
Alors, je l'ai revendu, mais je viens de le revendre.
D'accord.
La famille Tétinger, c'était à Tariq. Mais c'était comme ça, il y a 1 an exactement. C'était pour faire d'autres choses, en fait, faire d'autres hôtels.
Pendant tout ce temps, tu n'as gardé que le Paradis et Tariq?
Non. Après, on a lancé un nouvel hôtel juste après le Paradis qui s'appelait l'hôtel Panache.
Ouais.
Ensuite, on a lancé l'hôtel Bienvenue. Ensuite, on a lancé l'hôtel Beau Repère. Et ensuite, on vient d'ouvrir l'hôtel des Deux Gares, entre la gare du Nord et la gare de l'Est. Et là, on est en travaux à Londres, dans un hôtel à Londres.
Expansion.
Voilà.
International.
Expansion.
Et donc, pendant tout ce temps, la vie d'un hôtel, entre le moment où tu l'achètes, le moment où tu fais les travaux, l'exploitation, j'imagine que entre le moment où tu l'as ouvert et le moment où tu l'as revendu, c'est passé combien de temps pour l'hôtel Paradis ?
Ben, l'hôtel Paradis, on l'a acheté en 2011 et on l'a revendu en 2020. 2019.
Ok, et donc ça veut dire que... Est-ce qu'à un moment, ces hôtels, alors hors crise Covid, est-ce qu'à un moment, ces hôtels, ils se... C'est quoi le cycle de vie d'un hôtel comme celui-ci ?
Bah, c'est toute la vie. Hein.
Ils cartonnent tout le temps. Non, mais je dirais, est-ce qu'il y a des moments où ils baissent, ils montent parce qu'il y a quand même de la concurrence qui s'est ouverte sur ce même
Il y a de la concurrence qui s'est ouverte, mais après, tant mieux, parce que je pense qu'en fait, la concurrence est assez bonne.
Oui, bien sûr.
Puisque ça permet de faire parler de Paris déjà en général, de faire revenir les touristes à Paris. Et de qu'il y ait un espèce de trend sur ces hôtels lifestyle ou moyenne gamme ou un peu luxe, ou voilà, mais en tout cas déco, design et tout ça. Et je pense que ça, c'est pas mal.
Ouais.
Donc ça nous permet, en fait, plutôt que de faire baisser l'hôtel, c'est que ça nous permet d'être toujours un peu au fil de l'actualité, même si bien entendu on parlait moins bien du Paradis ou un peu moins du panache et tout ça. Et ben, en fait, on augmente tous les ans le chiffre d'affaires. Donc même si c'est, bien sûr, c'est marginal, mais ça augmente toujours. Donc voilà, c'est notre idée, c'est de maintenir une qualité, de maintenir un standing pour les clients et d'avoir une clientèle de plus en plus fidèle, ce qui est le cas dans nos hôtels, donc on en est très content. Ouais.
Ouais. Et donc la clientèle de ce genre d'hôtel, c'est qui ? C'est quoi ?
Alors, il y a deux types de clientèle de toute façon, c'est soit les touristes ou soit la clientèle d'affaires.
Ouais, ou les clientèles d'affaires.
Et donc du coup, on a un mix à peu près, mais dans ces hôtels-là, de par le quartier, de par les emplacements, je pense qu'on a un tout petit peu plus clientèle d'affaires. Tu vois, on est vachement... on a beaucoup de clientèle dans le design, la mode, tous ces gens-là. Mais qui viennent pour le premier but, qui sont les boulots, parce qu'on bosse vachement avec les fashion week, on bosse vachement avec les salons, maisons objets, les salons pour enfants, tous ces salons-là. Et fashion week. Et après, plus les touristes qui sont attirés par nos hôtels, par la presse qu'on a sur les hôtels.
Revenons sur le branding, la DA. Qu'est-ce que tu vends quand tu vends ces hôtels-là ? Est-ce que c'est des questions qu'on se pose ? Parce que j'ai le sentiment que. C'est une belle décoration, mais tu défends quand même une idée quand tu fais un hôtel comme le Paradis ou tes autres hôtels. Tu défends une vision de lifestyle, une vision de l'hospitalité. Qu'est-ce que tu défends, toi, quand tu fais un hôtel ? Qu'est-ce que tu as en tête, en fait ?
Alors, c'est une vaste question. C'est-à-dire que il n'y a pas de grandes idées, il n'y a pas de grandes stratégies derrière tout ça. J'essaye déjà de faire quelque chose qui me plaît à peu près. Dans lequel je pourrais aller dormir si je vais dans une autre ville et tout ça, dans les hôtels urbains. Il y a pas de, tu vois, chaque projet est très différent.
Ouais.
Je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Et s'il devait y avoir un espèce de fil conducteur ou une idée, c'est un bon rapport qualité-prix. En fait, un truc, c'est un peu con de dire ça, mais c'est assez juste et c'est assez vrai. C'est-à-dire que on part pas dans des prix complètement délirants, on part pas dans des, j'essaie juste d'avoir le juste prix pour les clients. C'est-à-dire, tu as une super déco, une super ambiance, un super accueil. Mais on n'est pas dans de l'ultra luxe, on n'est pas dans des super luxe. Et c'est ça qui me plaît. C'est des hôtels qui me correspondent et là où je pourrais voyager, tu vois.
Comment l'attente des clients aujourd'hui, est-ce qu'elle a évolué ça fait 10 ans que t'es dans, enfin plus de 10 ans que t'es dans ce business-là. Comment est-ce que les gens ont... C'est quoi leur attente aujourd'hui ?
Je pense que forcément, l'attente a évolué parce que les gens sont forcément de plus en plus jeunes. En tout cas, ils ont beaucoup plus, ils voyagent vachement, ils lisent vachement ce qui se passe. Donc, il y a de l'attente sur le service, sur la décoration, sur les nouveaux lieux. Et puis voilà, chaque hôtel a sa place et a sa propre clientèle. Donc tout va bien. Mais voilà, il faut qu'on ait pas peur de se renouveler, il faut qu'on soit à l'écoute, je pense, en tant qu'hôtelier de nos clients. Ouais. Et puis voilà.
C'est quand même une industrie qui est vieille comme le monde, l'hôtellerie. Est-ce que finalement ça n'a pas trop changé? C'est toujours.
Ouais.
C'est pas un milieu qui s'est vraiment disrupté, qui s'est fait ubériser. Alors si par Airbnb.
Mais justement, c'est là que en fait le truc, c'est que je suis assez d'accord avec toi. C'est un des plus vieux métiers du monde. Et en fait, c'est juste comme tous les métiers de service. Et ben, je suis intimement persuadé que, tu vois, le meilleur des métiers de service, c'est l'humain. Et que, en fait, c'est l'humain qui est au centre du métier de service. Mmh. Et que c'est l'humain qui fera le meilleur service ou le meilleur métier de service, comme dans un restaurant et tout ça. Et que tu as beau essayer de faire la meilleure technologie, la meilleure déco, le truc le plus important, c'est le service, c'est l'humain, c'est l'accueil.
C'est le mec qui est derrière la réception.
C'est le mec qui est derrière la réception. C'est un peu con, mais c'est ça. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'exaspère, c'est les check-in automatiques, les trucs comme ça. Ça, c'est, voilà,
j'y arrive pas.
J'y arrive pas en tant que client. C'est impossible pour moi. Et même un moment, tu vois, de mettre des il y a quelques années, il y avait la grande mode qui était de mettre des iPads à la réception pour faire un peu conciergerie. Je pense qu'il y a rien de mieux quand tu arrives à la réception d'un hôtel que tu demandes au réceptionniste quelle est son adresse préférée pour aller dîner à côté, tu vois, si t'as envie.
Bien sûr.
C'est beaucoup plus sympa que d'aller voir sur un iPad où tu vois, tu sais pas déjà si c'est sponsorisé, pas sponsorisé. Que si c'est un vrai conseil, un faux conseil, et que le mec va t'indiquer son meilleur resto où lui il a pu aller avec sa copine la veille, ou le meilleur magasin pour aller acheter du chocolat ramener à ta famille, tu vois, trois jours après, quoi. Et je pense qu'en fait c'est ça le meilleur service. On aura beau faire tout ce qu'on veut, c'est ça le meilleur service. Et c'est ce qu'a essayé pour moi, si pour faire un mini aparté sur Airbnb, c'est ce que Airbnb a essayé de lancer, qui était leur première idée, qui était vraiment de faire l'expérience de vivre comme des locaux, de vivre comme ça. Le seul truc, c'est que ça, mais c'est un peu, alors c'est pas leur faute à 100%, mais comme ça s'est tellement développé Airbnb, qu'il y a de plus en plus que ça s'est professionnalisé entre guillemets, maintenant les apparts Airbnb, t'as que des apparts qui sont meublés chez IKEA ou chez Muji ou des choses comme ça. Donc en fait, ça s'est standardisé, alors que tout leur truc, c'était de pas être standardisé comme étaient les hôtels à l'époque, quoi. Donc je pense que justement ça s'est croisé, et que maintenant eux doivent ressortir de ce modèle-là aussi et de faire hyper gaffe à pas avoir le même appart IKEA que tout le monde. Parce que tu vas dans un Airbnb maintenant, voilà, ça m'est arrivé de prendre des Airbnb, que tu sois à Lisbonne ou à Stockholm, de temps en temps tu vois pas la différence du Airbnb, et donc du coup c'est ça le gros problème, quoi.
Tu parlais de service. Comment tu fais en sorte de garder un service de malade mental? Enfin, j'imagine que c'est ton obsession du quotidien, mais comment tu fais pour avoir ça, justement, ton réceptionniste Jean-Michel qui connaît le quartier par cœur, qui aura l'intelligence, la sensibilité de donner le bon conseil à la bonne personne, etc.
Ben en fait le truc, c'est que ça c'est clairement le truc le plus compliqué, parce qu'en fait il faut que déjà les réceptionnistes ou toutes les même les femmes de chambre, les valets de chambre, les directeurs aient une sensibilité à ça. C'est-à-dire qu'en plus de la sensibilité de l'accueil, il faut qu'ils aient une sensibilité d'aller découvrir des nouvelles choses, d'aller voir ce qui se passe dans le quartier, d'aller voir les nouveautés. C'est-à-dire que moi, je les encourage vachement. Dès qu'il y a un nouveau resto qui ouvre, dès qu'il y a une boutique, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, je les encourage à y aller. Nous, on va souvent, par exemple, quand on fait des déjeuners d'équipe, que ce soit pour Noël ou à d'autres occasions, je les emmène tous découvrir un nouveau resto, ou on fait venir un traiteur du quartier ou d'à côté. Voilà, j'essaye vraiment de créer un maillage, en fait, avec le quartier, parce que le problème des hôtels, c'est qu'on est, comme on est une espèce de ville dans la ville, on est ouvert 24 sur 24, on est un peu dans notre bulle, en fait, et on voit pas forcément ce qui se passe dans le quartier ou juste la porte à côté. Donc je pense que c'est le premier grand truc, c'est d'essayer d'aller
s'ouvrir.
D'aller s'ouvrir, mais d'obliger un peu le personnel à le faire aussi, parce que le personnel, forcément, lui, il arrive le matin à l'hôtel, il repart, il a qu'une seule envie, c'est de rentrer chez lui. Et donc voilà, il faut lui donner envie, il faut qu'il ait cette appétence à aller voir ce qui se passe à côté.
Comment tu arrives à faire du bouche-oreille, comment tu déclenches le bouche-oreille chez tes clients? Parce que venir à l'hôtel, qu'est-ce qui va pousser tes clients à parler de leur expérience chez les autres, enfin à leurs amis, à leur famille, etc.
Alors on n'a pas de charte précise, il y a pas de bible chez touristes pour dire tiens, il faut faire ça, faut cocher telle case pour faire le buzz et tout, ou le bouche à oreille. Je pense que le meilleur bouche à oreille, c'est l'expérience, et en tout cas c'est ce que peut ressentir le client. Donc c'est on le maîtrise pas à 100%. Après, ce qui est, voilà, l'autre chose hyper importante pour nous, c'est d'essayer de laisser les petites attentions qu'on peut apporter aux clients. C'est-à-dire qu'on n'a pas 15 000 services, mais j'insiste énormément pour qu'on fasse hyper gaffe au petit-déj. C'est-à-dire que comme on a une très grosse clientèle régulière, et ben cette clientèle d'habitués, elle a bien entendu ses habitudes, elle mange certaines choses au petit-déj. Et j'essaye d'apporter les petites intentions, d'avoir les habitudes de ces gens, par exemple que ce soit au petit-déj ou dans la chambre, ou voilà, tout au long de la journée, et que eux se sentent presque comme à la maison. Ou en tout cas, voilà, qu'on crée un vrai lien avec cette clientèle. Et même par exemple, pendant la pandémie, ça fait quasiment un an qu'on est fermé. Et ben on prend régulièrement des nouvelles de notre clientèle.
Vous les appelez? Vous leur envoyez des emails?
Ouais. Email et on les appelle.
On
les deux, je demande au personnel de le faire.
Okay.
Ça prend pas beaucoup de temps et en fait, je me rends compte que les gens, c'est con, mais dans le boulot, personne ne le fait, quoi. Tu vois, bien sûr, les gens prennent des nouvelles de leur famille, mais en fait, des relations, si t'es pas le bureau d'à côté, ou bien entendu, tu vas prendre des nouvelles avec le type qui bosse à côté de toi. On a des gens qui viennent toutes les semaines ou tous les mois dans nos hôtels. Et bah du coup, une fois tous les trois mois, on prend des nouvelles.
C'est le modèle touriste, hein, parce que c'est le nom de ton groupe. Vous appliquez toujours la même recette finalement, j'ai le sentiment. C'est un petit hôtel de 30, 40, 50 chambres. Ça va jusqu'à combien de chambres d'ailleurs?
C'est 40 chambres, et sauf l'hôtel à Londres là, qui est en construction, c'est 60 chambres.
D'accord. Petit hôtel ou pas de restauration, c'est uniquement le petit-déj?
On a des hôtels avec de la restauration.
D'accord.
Et d'autres hôtels sans restauration.
Ouais. Et ça, c'est dans le modèle, gérer un resto, c'est dur.
C'est vraiment notre métier.
C'est vraiment notre métier. Et pourquoi tu t'es encombré de ça?
Je me suis encombré de ça.
C'est ça, parce que tu gagnes pas vraiment d'argent comparé à un hôtel sur un restaurant d'hôtel.
Bah, c'est beaucoup plus compliqué, surtout que moi, c'est pas mon métier, comme tu dis. Donc, j'essaye de faire du mieux que je peux. Je sais pas si je le fais très bien, mais j'essaye. En fait, du coup, comme je pense que je le fais, je le fais pas très bien, j'essaie de m'entourer de restaurateurs pour le faire à ma place.
Ouais. Tu t'associes avec des restaurateurs?
Soit je m'associe, ou soit je mets en gérance les restaurants et tout ça. Et dans ces cas-là, ça se passe mieux. C'est parce qu'en fait, le tout premier restaurant, comment ça s'est fait, c'est que ça s'est fait un peu naturellement. En fait, j'avais racheté l'hôtel Panache. Et il y avait une des boutiques en dessous qui était à vendre, qui était une très grosse boutique, qui était une pâtisserie qui s'appelait Zazou, qui était à vendre. Et en fait, comme l'investissement était quand même conséquent, je ne pouvais pas ne rien faire de ce local. Donc, je l'ai racheté, mais il fallait que j'en fasse quand même une source de revenus. Et la seule source de revenus, parce que c'est une belle boutique d'angle et tout ça, il fallait que j'en fasse un restaurant. Donc, on a fait le Café Panache, qui est à l'angle Geoffroy-Marie, rue du Faubourg, Montmartre. C'est comme ça que c'est parti, en fait.
Pourquoi cette envie d'aller à Londres? C'est important Enfin, pourquoi? Ouais.
Alors, Londres, en fait, la première envie, c'était de partir de Paris. Pas forcément de quitter Paris, mais de partir de Paris, de voir d'autres choses.
Ouais.
Parce que là, en fait, malgré tout, Londres, c'est le 8e hôtel qu'on fait. Donc, je ne vais pas dire que je tourne en rond, c'est un peu faux, mais j'étais très curieux intellectuellement de voir un peu d'autres choses, même si ça reste de l'hôtellerie, de voir d'autres villes, d'autres univers, d'autres pays ou ailleurs en France. Et après, j'ai toujours eu un attrait pour Londres. Je trouve que Londres est une ville hyper dynamique. C'est une ville qui m'attire depuis de nombreuses années. Et du coup, voilà, ça faisait longtemps qu'on cherchait un hôtel à Londres. Et c'était la première. Voilà, on a sauté sur cette opportunité-là, qui est un hôtel dans le centre de Paddington, qui donne sur un jardin anglais qui est vraiment magnifique. C'est une très belle maison. Et donc, du coup, c'est parti comme ça. Voilà, j'ai été attiré par le dynamisme de Londres.
C'était juste l'envie très personnelle.
L'envie très personnelle et de pas répéter une énième fois un hôtel dans le 9e, 10e à Paris. Même si ça, j'adore tous ces quartiers et tout ça, c'était d'aller voir ailleurs.
C'est pour se challenger,
quoi. C'est pour se challenger, ouais.
Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on achète un hôtel à Londres? C'est aussi simple qu'à Paris? Enfin, c'est aussi compliqué qu'à Paris ou...
Je pense que c'est un peu plus simple qu'à Paris.
Ouais.
Après, ça passe par des choses assez comme à Paris, c'est-à-dire, mais il y a plus d'acteurs, mais c'est par des agents immobiliers. En gros, c'est pas des agents immobiliers d'appartements, mais des agents immobiliers d'hôtels. Et puis voilà, il y a des banques spécialisées dans l'hôtellerie et c'est tout ce petit monde-là qui gère tout ça.
À part toi, qu'est-ce qui dynamise un peu le monde de l'hôtellerie aujourd'hui?
Bah, tous les groupes qui font ça. Alors, il y en a. On est plein à faire ça.
Il y a beaucoup d'hôteliers dans le monde, ouais.
Il y a
beaucoup d'hôteliers dans le monde, je dis.
Il y a beaucoup d'hôteliers dans le monde et il y a beaucoup d'hôteliers qui font des choses très bien. Mmh. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est tous les trentenaires, quarantenaires qui se lancent dans l'hôtellerie, qui reprennent les hôtels des parents ou soit qui se lancent pour la première fois. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, c'est une nouvelle génération qui arrive avec un nouveau regard, qui a plus voyagé, qui ose faire plus de choses et qui va se lancer plus dans la déco, ce que ne faisaient pas forcément les parents ou voilà, la génération d'avant. Et qui a un vrai intérêt, qui comprend plus le monde d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui est rigolo et c'est pour ça qu'il se passe autant de choses.
Tu regardes où, toi, d'ailleurs, pour t'inspirer ?
Pour les hôtels et tout ça ?
Pour les hôtels et tout ça, pour ton métier ?
Je regarde partout. Moi, je lis énormément la presse.
Ouais. Tu lis quoi ?
Je lis tout. De la presse étrangère, ouais. de la presse française, tu vois, là, sur le bureau. Intérieur, j'ai Design Anthology, Vogue Living Australia, World of Interiors, Céréales, voilà, je lis plein de choses, je regarde plein de blogs, je voyage pas mal, je m'intéresse beaucoup voilà, à ce qui se fait à l'étranger, j'adore regarder les nouvelles boutiques, les nouveaux restos, voilà, tout ce qui a trait à l'art au sens global, et puis le design, la déco, et voilà, ouais.
Est-ce que tu feras des hôtels plus grands un jour ?
Ouais.
Ouais.
J'ai pas de.
Non, mais est-ce que, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est ton modèle d'hôtel aujourd'hui et ton envie de créer ce maillage avec le quartier, etc. Est-ce que demain, quand t'as un hôtel de 150 chambres, 200 chambres, t'es capable d'avoir ce même niveau de service et cette même proximité est-ce que c'est un kiff pour toi ? Est-ce que t'as une envie là-dedans ?
Capable, j'en sais rien, c'est le futur qui me le dira. Ouais, j'ai une envie en fait, il faut qu'il y ait un coup de cœur en fait pour le lieu, il faut qu'il y ait un coup de cœur pour l'hôtel.
Ouais.
Je vais pas reprendre un hôtel de 150 chambres parce que c'est 150 chambres spécialement. Si c'est un truc en parpaing, tu vois, dans un quartier ou dans une zone industrielle qui m'intéresse pas. Faut qu'il y ait un sens au projet. Je le ferai que si je crois dans le projet ou si je pense que je peux apporter quelque chose.
C'est quoi le futur de touriste ? Comment tu l'imagines dans les 20 prochaines années ? Dans 10 ans, 10 ans après, dans 20 ans tu,
C'est loin,
tu
20 ans.
Ouais, mais bon.
J'en sais rien, j'ai pas de projet. J'ai des projets, mais comme ce que je dis à chaque fois, j'ai pas de grande stratégie à long terme. Je bosse vachement au coup de cœur. Il y a que des trucs, je fais que des trucs qui m'intéressent. On bosse sur des nouvelles sortes d'hébergements, d'hôtellerie.
Ouais, c'est quoi ça ? Parle-nous de ça un petit peu, c'est intéressant. Ça, c'est excitant.
On s'intéresse beaucoup, par exemple, au camping.
Ok.
Voilà, sur des choses comme ça. Alors, tu vois, il y a 2 ans, j'aurais jamais pensé ça. Et en fait, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et puis voilà, et on regarde aussi beaucoup d'hôtels, on continue à regarder des hôtels. Là, on a 3 dossiers à Paris en cours.
Aujourd'hui, touriste, il y a combien de personnes dans ce groupe-là ? T'es associé à des gens ? Quand tu dis « on », c'est toi tout seul ou t'as des associés ?
Bah, touriste, c'est moi tout seul. Ouais. Mais dans les collaborateurs, on est une petite centaine. Après, au bureau, on est 4. Et après, pour chaque hôtel, pour entrer dans le détail, j'ai en fonction des hôtels, mais quand on se développe, comme à Londres, j'ai des associés, par exemple. Ouais.
Ok. Revenons sur le futur de l'hôtellerie. On est en pleine crise du Covid, toujours. Qu'est-ce que ça va changer, d'après toi, cette pandémie ?
Ce que ça va changer dans le tourisme ou en général dans la vie
Non, dans le tourisme, dans ton métier. Comment est-ce que les gens vont voyager après ça ? J'imagine que tu te poses la question et ça doit te faire des nuits blanches, d'ailleurs.
Alors, je suis un grand optimiste. Et je pense que les gens, en fait, je pense que ça va assez rapidement, tout va rentrer dans l'ordre. J'ai pas de date précise en tête, mais je pense que les gens ont toujours besoin de voyager. Ils auront toujours l'envie de voyager, que ce soit pour le plaisir ou pour le professionnel. Et qu'il y a toujours, il y aura toujours cet engouement-là pour le voyage. Je suis pas très inquiet en fait, je suis pas du tout inquiet en fait pour le tourisme en général.
Ouais, ça c'est sûr.
Et je pense vraiment que ça va aller de mieux en mieux, que les gens vont de plus en plus voyager.
Ouais.
Moi, un des grands indicateurs que je regarde, c'est l'aviation en fait, c'est les chiffres de l'aviation et les ventes d'avions tous les ans. Et en fait, les chiffres sont complètement hallucinants. Il y a de plus en plus de ventes d'avions, même en 2019, en 2020. En fait, ça ne s'arrête pas du tout et que quand on regarde toutes les statistiques, voilà, les gens, il y a la mobilité et est de plus en plus présente. Donc voilà, j'espère juste que il y a quelque chose qui m'avait vachement touché, surtout pendant le premier confinement, c'était toutes les images où le monde était complètement arrêté sur le quoi, c'était plus sur l'écologie, mais c'est-à-dire que les villes qui étaient complètement bousillées par le surtourisme, on va dire, comme que ce soit Venise ou la Thaïlande ou voilà, ou des pays ou en Thaïlande et tout ça. Et bah que c'était des villes ou des pays qui étaient redevenus quasi vierges, j'exagère un petit peu, mais où voilà, où il y avait un espèce de, on se rendait compte que si le surtourisme n'était pas là, c'est voilà, on redevenait dans des choses beaucoup plus agréables et très bonnes pour le futur. Et j'espère que ça sera ça le truc le principal qu'on va garder sur ces histoires de surtourisme. Je l'espère, en tout cas pour ma part, voilà.
Pourquoi tu t'intéresses au camping, aux nouvelles formes de, enfin, tu parlais de tout à l'heure de nouvelles formes de voyage, de tourisme. Pourquoi tu creuses là-dessus?
Alors, les deux n'étaient pas forcément liés hein, quand okay. je travaillais là-dessus. Mais c'est parce que bah, déjà, les nouvelles formes de... Quoi, je pense que le problème du tourisme, c'est le surtourisme. Ouais. Ça, c'est sûr. Je pense que les grands... ceux qui ont créé ça, c'est plus les pays que les opérateurs touristiques. Je ne sais pas si... Voilà, mais qui accueillent de plus en plus pour faire vivre leur industrie. Mais qu'en fait, je pense qu'ils vont être obligés d'en revenir, et je l'espère. Et après sur les nouvelles formes d'hébergement, c'est plus personnel, c'est là que c'est voilà, le camping c'est quelque chose, j'étais pas forcément client du camping jusqu'à récemment, et c'est des choses qui m'intéressent parce que je pense que même s'il se passe beaucoup de choses là-dedans, voilà, je dis pas que c'est le futur, je dis pas que je vais apporter je vais pas révolutionner du tout le milieu, mais en tout cas c'est un milieu qui m'intéresse et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire.
Qu'est-ce que je veux dire, quand tu parles de j'ai perdu ma question, quand tu parles de, oui c'est ma question, est-ce que déjà avant le confinement c'était le cas? Mais aujourd'hui, le modèle économique d'un hôtel, c'est business affaires, loisirs, qui vient passer une nuit, etc., et qui repart. Est-ce que demain, tu dois pivoter à un moment donné et apporter d'autres services? Je pense des locations à la journée pour des gens qui travaillent dans une chambre d'hôtel la journée, etc. Est-ce que c'est des choses que vous faites déjà? Est-ce que tu vas l'amplifier ou pas du tout?
Alors... c'est des choses qu'on faisait avant, en fait, mais pas, on l'avait pas pensé comme ça. Mais c'est-à-dire qu'on a toujours eu des gens qui venaient bosser, alors pas forcément dans les chambres, mais qui venaient bosser dans les parties communes des hôtels, autour d'un café, mais voilà, comme dans les restaurants, comme dans les cafés normaux. En fait, c'est juste que c'est quelque chose qui a été mis en avant avec la crise, mais c'est quelque chose qui a toujours existé, comme le day use et tout ça. Je suis pas sûr qu'avec la crise aujourd'hui, ce soit quelque chose qui marche beaucoup. Moi, j'ai quelques copains qui le font, et c'est pas quelque chose qui est très fait, de prendre une chambre d'hôtel à la journée pour y bosser et tout ça. Donc, en fait, c'est quelque chose que voilà, c'est des petits services qu'on a toujours proposés, qu'on continuera à proposer parce que, mais nous voilà, c'est là que c'est. Après, il y a des chambres d'hôtel, il y a des salles de réunion, il y a un restaurant, il y a des parties communes avec des salons. Donc voilà, tout ce qu'on peut proposer. On le propose, on ne va pas le... on fera pareil après. La nouvelle forme, le nouveau service, je ne l'ai pas encore aujourd'hui. En tout cas, on ne l'a pas trouvé. Mais voilà, après, on reste sur des métiers. Comme on disait tout à l'heure, c'est des métiers...
qui ne pourront pas.
Ouais. Qui pourront pas, on ne va pas révolutionner le complètement l'hébergement d'un hôtel. Quoi.
D'ailleurs, si tu commençais ton métier aujourd'hui, comment tu t'y prendrais? Si tu avais envie de monter un petit groupe hôtelier comme tu l'as monté en l'espace de 12 ans, comment tu t'y prendrais aujourd'hui?
Je m'y prendrais à peu près pareil. Le seul truc, c'est que je miserais beaucoup plus rapidement sur la déco.
Ouais, ok.
Avant de passer le premier sans faire la déco, alors qu'il y a peut-être été une légitimité pour moi aussi, pour me tester et tout ça. Mais j'irais tout de suite sur un hôtel paradis ou un hôtel bienvenue ou un hôtel panache. Parce que c'est vraiment là où on a explosé et puis voilà.
Mais aujourd'hui, le marché coûte beaucoup plus cher qu'il y a 10-12 ans. Enfin, tu le disais tout à l'heure, ce ne serait pas possible aujourd'hui avec 250 000 euros d'acheter un hôtel, même dans le 14e. Comment aujourd'hui, puisque c'est tout de suite des gros investissements, si on n'a pas de l'argent familial, il faut s'associer, il faut élever des fonds, ça marche comment aujourd'hui dans l'industrie ?
Bah, clairement, moi, ce que j'ai fait à l'époque, je serais incapable de le faire.
Ouais.
Et en fait, oui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de secrets. C'est-à-dire qu'il faut soit de l'argent familial, soit il faut aller voir des fonds d'investissement qui font. Alors, il y a des fonds d'investissement qui font que de l'hôtellerie ou quasi que de l'hôtellerie.
C'est qui aujourd'hui les fonds d'investissement qui font que ça ?
Je pense à 1-2-3 Venture, je pense à M Capital, je pense à Extend AM. Voilà, il y a quelques fonds comme ça qui sont assez réputés. Il y a la BPI aussi qui est assez...
Qui s'est mis sur ce créneau aussi.
Qui est hyper branché dans l'hôtellerie.
D'accord.
Et donc voilà, c'est des gens comme ça. Après, est-ce qu'ils font confiance pour une première acquisition, à une première personne ? Je ne sais pas. Mm-hmm. Mais il n'y a pas 15 000... En tout cas, il n'y a pas 15 000 recettes non plus, quoi.
Mm-hmm. On est dans entreprendre dans la mode. Est-ce que tu as des exemples de marques de mode qui ont ouvert des hôtels et où ça a été vraiment bien fait, où ça a fonctionné?
Alors, des marques de mode qui ont ouvert des hôtels, il y en a pas mal.
Ouais.
Après, où ça a vraiment fonctionné, bah, j'en sais rien, mais je pense que oui. Je sais pas si j'y réfléchis. Il y a Armani qui a ouvert, qui ont l'air de très bien marcher.
Mais qui s'associe à un hôtelier, non? À un moment donné, ils doivent
le truc, c'est que les gens dans la mode qui le font, à part quelques exemples, j'en ai un en tête, mais il n'a pas encore ouvert, mais il s'associe toujours. C'est là que, en fait, c'est des gens qui s'associent avec des promoteurs, en général immobiliers, et qui vendent ou qui louent leur marque, et qui après, qui peuvent mettre leur lifestyle, leur déco dedans. Mais en général, ce n'est pas eux qui sont ni opérateurs ni propriétaires. Après, je sais qu'il y a Thierry Gillier de Zadig & Voltaire qui va ouvrir un hôtel dans le premier, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et il y a... Ouais, il y a très longtemps, il y a un groupe hôtelier comme ça dans la mode, alors qui eux devaient être propriétaires, mais qui en Italie, qui m'avait vachement intéressé et passionné, j'y étais allé. Si je me trompe pas, c'était Ferragamo, qui avait lancé un petit groupe d'hôtels, je me rappelle plus comment ils s'appellent, mais ils étaient 5 ou 6 hôtels, notamment à Florence, et qui étaient magnifiques. J'avais ce souvenir-là, j'étais allé dans un hôtel, et qui était vraiment très joli. Mais voilà, ouais.
Trop bien. Aujourd'hui, la distribution d'un produit hôtelier, d'une chambre, ça se passe comment Parce que bon, moi qui ne suis pas forcément du milieu, je me dis que tu peux le vendre en direct, tu peux le vendre via Expedia, via Booking, etc. Comment tu t'es organisé, toi, pour justement ne pas refiler 30% de ton business je ne sais pas, je dis 30% comme ça, mais de ton business à ces gens-là.
En fait, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on fonctionne un peu tous pareil. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y a les réseaux en direct. Donc, ils passent par notre site, en gros, nos clients affaires, qui réservent soit par téléphone ou par nos sites en direct. Et après, la distribution Internet, plus classiquement, ça passe par, que ce soit Booking, Expedia ou des opérateurs un peu plus ciblés, les boutiques hôtels, comme Mr. & Mrs. Smith, par exemple.
Tu travailles avec tous ces gens, toi ?
On travaille avec tous ces gens et on travaille avec tout le monde, plutôt.
Ouais.
Toute notre idée, c'est d'essayer de ne pas être trop dépendant de ces gens-là. En fait, c'est là où la presse nous aide beaucoup. C'est-à-dire comme on est beaucoup suivi par la presse, eh ben, la presse nous permet d'avoir de plus en plus de raisons en direct. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper fort et hyper important pour nous. C'est pour ça qu'on préfère dépenser un peu plus d'argent dans la communication, dans la décoration, et moins dans la distribution après.
Et ces gens te prennent combien en général ? Ils prennent quoi ?
Les
Expedia,
distributeurs,
etc. Ouais,
chacun a sa propre grille, mais ça va aller de, je sais pas, Booking, ils prennent 17%, Expedia, un peu moins de 20%. Voilà, c'est hyper...
Et ce qui est beaucoup ou pas, je ne m'en rends pas compte.
Bah, ce qui est beaucoup, après, là où je considère, on leur tape toujours sur les doigts, mais eux, ils ont aussi leur propre clientèle, ils font de la pub télé, ce que nous, on ne peut pas faire. Donc ça a un coût, voilà. Après, ils sont hyper puissants, voire trop puissants, mais ils arrivent, voilà. Ils les ont pas volés leurs clients.
Ouais.
Et les gens, on n'est pas obligé de travailler avec eux. Le seul truc, c'est que quand on est en basse saison, on est content aussi de travailler avec eux. Donc
ouais, c'est clair.
Voilà.
Sur la partie sur les outils que vous utilisez quand on a un hôtel comme ça, c'est quoi? les outils informatiques, les outils...
Ouais, alors là, c'est assez basique, mais ouais. On va rentrer, quoi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a payé, donc en gros, tout tourne autour d'un planning qui est à la réception, qui s'appelle un PMS chez nous. Donc c'est un planning où en fait on gère toutes les résas d'hôtel, toutes les chambres d'hôtel dans ce planning. Ouais. Et ensuite ce planning, si tout se passe à peu près bien, est connecté avec tous les sites, donc Booking, Expedia et tout ça, et notre site à nous en direct. Et en fait, quand les gens font une résa via un site, et ben cette résa rentre directement dans le planning. Et voilà.
Tout est connecté.
Normalement. Ouais.
Ok. Et après, tu as un CRM, un Customer Relationship Management, parce que tout à l'heure, tu disais, on essaye d'avoir la petite attention du mec qui ne mange pas de viande, etc. Est-ce que vous arrivez à garder toutes ces informations de façon informatisée?
Alors on a un CRM. Alors, ça reste un peu artisanal, mais on bosse, ils ne vont pas être contents si je dis ça, mais on bosse avec une boîte qui s'appelle Progress 9, que j'aime beaucoup, mais dans le sens où, en fait, comme on est un petit groupe, on n'a pas des moyens extraordinaires, mais... on essaye de... Donc, on a une fiche client pour chacun des clients. On a notre petit CRM. Mmh. On essaye de faire notre newsletter. On essaye de se débrouiller comme on peut, de garder un contact, en fait, avec les clients et d'avoir une information la plus personnalisée pour chacun des clients. Mmh. Après, c'est bien entendu, c'est compliqué parce qu'on n'a personne au niveau du groupe vraiment qui est dédié à ça pour centraliser tout ça. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, en vrai. Donc c'est chaque hôtel qui fait sa propre fiche client et on essaie de se débrouiller comme ça.
Et j'ai le sentiment que, alors vous êtes un petit groupe, vous avez quand même pas mal d'hôtels maintenant déjà. Finalement, en support ici au siège ou au support center, je sais pas comment tu l'appelles d'ailleurs, vous êtes que 4.
Ouais, c'est là que en fait je pars du principe que j'essaye de laisser le plus d'autonomie possible à chaque hôtel. En fait, j'essaye vraiment que les directeurs ou les directrices des hôtels puissent gérer en espèce d'autonomie maximum leur hôtel. Après, nous ici au siège, on a Amel qui s'occupe, qui aide ou qui chapeaute tous les directeurs d'hôtel. On a Charles qui est le DAF, donc direction financière administrative, et après on a Jean-Michel à la comptabilité, et voilà, c'est assez simple en fait.
Et tu arrives à retenir les gens dans tes équipes, dans tes hôtels? Tu arrives à avoir une bonne fidélité de tes équipes?
Écoute, on a un peu de turnover comme tout le monde, mais comme je te disais tout à l'heure, l'employée la plus ancienne, elle était là depuis le premier jour, puisque c'est moi qui suis arrivé à l'hôtel Sophie Germain et on s'est suivi, et elle travaille toujours avec moi. Il y a Pascal qui vient d'arriver à l'hôtel Bienvenue. Et on a commencé en 2011, je crois, ou 2012, ensemble. Je pense qu'on arrive à bosser longtemps avec les gens.
Ça ressemble à quoi tes journées, toi?
Ça ressemble, alors c'est un peu la course, mais on enchaîne les rendez-vous, on se concentre beaucoup sur les acquisitions, en tout cas sur les nouveaux projets, qui me prennent beaucoup, beaucoup de temps. Je visite 3-4 hôtels par semaine, à peu près, en temps normal.
C'est énorme.
C'est beaucoup,
Mais il y en a tant que ça sur le marché? Il y a pas mal d'hôtels sur le marché.
Il y en a pas mal, en tout cas, on est pas mal en amont sur les acquisitions d'hôtels, Et donc, on en visite 3-4. Et puis, voilà, et donc, du coup, qui dit ça, c'est là qu'il faut qu'on bosse vachement avec Charles sur des nouveaux, sur des business plans, pour aller rencontrer des banquiers, pour voir des avocats. Toute la partie un peu moins sexy, entre guillemets, de notre métier. Mais qui me passionne. C'est ça. Donc, c'est peut-être 6 ou 7 rendez-vous par jour.
Sont vraiment focalisés sur le futur. Et tes opérations, comment tu les gères au quotidien?
Les opérations, c'est l'autre partie du temps. Et alors, maintenant qu'il y a Amel qui m'aide au bureau, elle s'en occupe beaucoup. Je lui ai délégué beaucoup de choses sur l'opérationnel. Et moi, j'essaye de passer tous les jours dans les hôtels. Même pas très longtemps, mais j'essaie de passer tous les jours.
Tous les jours. Tu te montres et tu vois ce qui se passe.
Je discute, parce que toujours dans ce côté un peu relationnel ou humain, c'est-à-dire que j'aime bien parler avec le réceptionniste ou le directeur pour savoir juste si tout va bien. Et en fait, je vois tout de suite s'il y a un problème. Ça me permet de voir l'hôtel, ça me permet de voir l'état de l'hôtel, ça me permet de voir si les gens font la gueule, font pas la gueule. Et voilà, c'est le meilleur indicateur pour voir l'état d'un hôtel.
Il y a quand même un gros sujet maintenance dans un hôtel. Comment tu t'équipes là-dessus et comment tu fais en sorte que tes hôtels soient toujours nickel chrome et que tu n'as pas le problème du client qui arrive et qui a un problème sur sa douche, quoi?
Ben, en fait, dans tous nos hôtels, on a toujours un type de maintenance.
Partout, dans chaque hôtel, il y a
dans chaque hôtel, alors ça peut être soit une personne à plein temps ou soit une personne entre deux hôtels, qui se partagent entre deux hôtels, ça dépend, mi-temps dans chacun des hôtels. Mais au final, aujourd'hui, on a trois personnes en tout dans le groupe qui gèrent la maintenance des hôtels. Et après, dès qu'il y a un souci un peu plus important, on a des réseaux de d'entreprises, soit spécialisées ou d'entreprises générales, qui peuvent venir quasi 24 heures sur 24. Je dis n'importe quoi, s'il y a une chaudière qui explose en pleine nuit, on a déjà un numéro à 2h du mat, le type il vient pour réparer la chaudière et tout ça. Donc voilà, après on n'est pas parfait non plus, ça arrive de temps en temps, parce que c'est des outils qui sont utilisés 24h sur 24, ça s'arrête jamais un hôtel. Mais on essaye, voilà, dès qu'il y a un souci, parce que ça arrive, on essaye de le réparer le plus vite possible. Et puis voilà.
Si tu donnais des conseils à un newbie dans l'hôtellerie, tu lui dirais quoi? C'est quoi les pièges à éviter dans l'hôtellerie quand tu fais ce métier, quand t'es patron d'un hôtel ou d'un groupe hôtelier?
Les pièges, je sais pas exactement. Je vois pas de pièges, de grands pièges au quotidien. Il faut juste, je sais pas, un peu de bon sens et puis voilà, histoire de pas. Mais j'ai pas de.
C'est quoi les plus grosses erreurs que t'as fait, toi?
Je sais pas, on fait tous des erreurs, mais j'ai pas de. Je vois pas, j'ai pas fait.
T'as
quoi.
Pas fait la boulette qui t'a mis en danger ou qui.
Bah non, parce que j'essaye de. À chaque fois que je prends une décision, j'essaye de. Je vais pas prendre une décision qui va mettre en péril le groupe, par exemple, quoi, ou un hôtel ou un truc. Donc il y a toujours un gros coup de stress quand on achète l'hôtel, un hôtel, par exemple. Et que bien entendu, à chaque nouvelle acquisition, on a un peu moins de stress, puisque maintenant on commence à bien connaître Paris, à voir comment ça fonctionne et à voir le potentiel d'un hôtel. C'est sûr que quand j'ai acheté le premier hôtel à 25 ans, je l'ai fait visiter à 18 personnes pour essayer de me rassurer, pour essayer de voir, et j'ai demandé des dizaines de conseils. Qu'aujourd'hui, quand je visite un hôtel, je vois beaucoup plus rapidement le potentiel ou pas de l'hôtel. Et après, voilà, j'essaie juste dans ma gestion quotidienne de ne pas faire d'énormes boulettes qui pourraient mettre en péril l'hôtel, quoi.
Tu te fais conseiller par qui? Enfin, quand tu avais 25 ans, là, tu te faisais conseiller par qui? Et aujourd'hui, est-ce que tu te fais conseiller par... Est-ce que tu as des mentors ou des gens qui ont un peu plus d'expérience que toi?
Je me fais conseiller... j'ai une petite chance, c'est que j'ai... Comme j'ai eu beaucoup d'expérience dans l'hôtellerie, j'ai gardé un bon contact avec les gens que j'avais croisés, donc ça m'a beaucoup aidé. J'hésite pas à les appeler, que c'est, tu vois, des grands groupes ou des grandes familles d'hôteliers ou des gens qui ont de l'expérience, beaucoup plus d'expérience que moi. Donc ça, c'est des gens, voilà, qui m'entourent. Après, en mentor, j'ai pas vraiment de mentor, ou en tout cas, si j'en ai un peut-être, c'est mon père qui m'a vachement aidé. Ouais. Et à qui j'ai demandé beaucoup de conseils, surtout au début, et je continue à lui en demander beaucoup aujourd'hui. Alors pas forcément sur l'opérationnel, mais plus, tu vois, on discute beaucoup sur le futur, sur l'avenir de mon métier, de son métier, de nos métiers et tout ça.
Il fait quoi, lui?
Lui, il est dans l'édition.
D'accord.
Et donc du coup, voilà, c'est plus ça, c'est plus lui qui m'a aidé. Tu vois, quand je me suis endetté quand j'avais 25 ans et que je me suis endetté sur 20 ans, où tout d'un coup, la veille de la signature en banque, à la banque, je me suis tapé une nuit blanche de stress, de dire est-ce que je fais pas une connerie de m'endetter sur 20 ans et tout ça. Et voilà, c'est un avis qui est très important pour moi, donc j'essaye de l'écouter de temps en temps.
Ouais. Quand tu prends tes décisions, justement, comment tu sécurises le truc au maximum? Et à un moment donné, il y a quand même une part d'inconnu, donc tu fais un petit coup de poker, même si tu enlèves quand même pas mal de doutes. À un moment donné, il faut quand même y aller, quoi.
Ouais. Il y a un moment, il faut y aller, on n'a pas le choix. Non, mais écoute, il y a un moment de doute. Alors, ce doute se gomme en fait avec le travail. C'est-à-dire que plus on travaille sur un dossier, plus on travaille sur. Voilà, on essaye de se baquer, on essaye de lire toutes les lignes d'un contrat, on essaye de... Voilà, et c'est comme ça qu'on s'enlève de la pression et du doute. Bien entendu, il y a toujours un coup de poker. Quand on achète un hôtel à Londres de 60 chambres, les montants sont importants, et donc du coup, on a des investisseurs qui nous font confiance. On fait tout ce qu'on peut, on y bosse beaucoup. Après, on se fait conseiller aussi, bien sûr. On prend des avocats, on prend des gens pour s'entourer du mieux qu'on peut. et puis on essaye et puis on avance comme ça quoi.
Ça t'éclate encore de faire ce métier?
Ouais, plus que tout.
Ouais.
Ouais. Surtout quand c'est la crise comme ça.
Ouais.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Pourquoi ça t'éclate?
Ça m'éclate parce qu'en fait, je suis. Là, franchement, ça me rend fou de ne pas travailler, hein, ça, depuis quasi un an et tout ça. Mais que, en fait, je suis persuadé qu'après, ça va être une espèce de folie, tu vois. J'exagère un peu, pas les 30 glorieuses, mais on peut connaître les 3 glorieuses, tu vois, après. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, tu vois, une espèce d'explosion de consommation, explosion de voyage. Explosion, je pense que les gens, là, ils sont. C'est la cocotte minute, quoi, ça va exploser. Donc les gens, ils n'en peuvent plus. Et que tu vois, dès cet été, dès l'hiver prochain, quand tout sera apaisé, on sera un peu plus en sécurité. Je pense que ça va repartir et je pense que les gens ils risquent de se lâcher et les 3 années après risquent d'être assez extraordinaires.
Je suis d'accord. C'est quoi ta North Star Matrix? C'est quoi les chiffres que tu regardes tout le temps, tous les jours?
Dans mon business, bah, je regarde les chiffres assez classiques qui sont le prix moyen, le taux d'occupation des hôtels.
Okay.
C'est-à-dire que tous les jours ou toutes les semaines, j'ai un reporting sur c'est le taux d'occupation des hôtels, prix moyen, qui en ramène un espèce de chiffre d'affaires. Et puis voilà.
Quand tu as des grands moments de doute, comme tu dois en avoir de temps en temps en ce moment, qu'est-ce que tu fais pour te refocaliser, te reconcentrer, te recentrer?
En ce moment, quand j'ai des moments de doute, et particulièrement en ce moment, écoute, j'essaie de faire vachement de sport. C'est une espèce de découverte pour moi où ça me fait pas mal de bien et ça me décompresse. Sinon, je me balade. Tu vois, ouais. C'est assez con, mais je vais faire des grands tours, soit avec les enfants, soit tout seul dans Paris. Ça j'adore, ça m'aère, ça me permet de penser à d'autres choses. Sinon j'essaye de voyager ou d'en discuter avec Julie, de pas ma femme, et de voilà, et quand si j'ai un moment de doute, on en parle et puis tu vois pour voir quelles sont les solutions quoi.
Qu'est-ce que tu fais de vraiment différent de tes concurrents d'après toi? Qu'est-ce qui fait que t'es vraiment unique au monde?
Je ne pense pas être unique au monde. J'essaye de faire j'essaie juste de faire les choses bien, pour moi tout seul déjà, pour notre groupe et pour nos clients. Je pense pas que je fasse, d'ailleurs, que je fasse beaucoup mieux que certains de mes concurrents. Je pense que tu vois, il y a des concurrents qui sont très bons et tout. J'essaie juste de faire les choses bien et de faire, voilà.
tu sais que j'ai une marque aussi,
ouais.
Qui s'appelle Réunis. Je sais pas si t'as eu l'occasion de regarder sur Instagram ce que je faisais.
Si, j'ai vu, ouais.
Et j'aimerais bien avoir quelques conseils. Je sais pas si t'as des conseils à me donner sur ma marque.
Je sais pas si je vais avoir beaucoup de conseils à te donner, surtout que c'est en mode.
C'est
donc
de la mode.
C'est pas voilà. C'est pas mon. C'est pas du tout mon univers. Mais écoute, non, j'ai. Moi, ça m'a beaucoup plu. Honnêtement, je connaissais pas. Voilà. Ce n'est pas un conseil, mais il faut juste que tu te lances pour les hommes, et puis ça sera déjà pas mal.
C'est clair. Et si un jour Réunis faisait un hôtel, comment je devrais m'y prendre?
Bah, il faut faire. Voilà, je pense qu'il faut réussir à bien déterminer l'ADN de Réunis pour essayer de le transposer dans l'univers d'un hôtel. Tu vois, comme pourrait faire les marques, comme pourrait faire une marque comme APC pour le transformer dans un univers d'un hôtel, comme le ferait Zadig et Voltaire. Voilà, c'est d'essayer de. C'est ça qui est tout le challenge, qui est assez marrant, je trouve, pour une marque de mode. Qui est de transposer l'univers des vêtements dans la décoration, dans un univers d'accueil, d'hospitalité, quoi.
Et si toi, tu faisais une marque de vêtements, ça serait quoi?
Bonne question.
Non, mais pour
Réunis,
pour...
peut-être. Non, j'en sais rien.
Non, mais pour reparler d'ADN, c'est ma question un peu du débarrage, de branding. Qu'est-ce que tu vends quand tu vends touriste? C'est quoi l'ADN de tes hôtels? C'est quoi le tronc commun de chacun de ces hôtels? Qu'est-ce que tu défends finalement quand tu défends, t'as pas juste une chambre et un bon service, tu défends autre chose que ça?
Ouais, bah, quand on défend bien sûr on défend, il y a une décoration aussi, il y a plein de choses, mais non je sais pas, ce serait moi les marques que éventuellement tu vois qui m'intéressent ou voilà, mais je sais pas du tout quel, tu vois, si on devait transposer le groupe touriste dans une marque de vêtements,
tu ne sais pas laquelle c'est.
Je ne sais pas. Alors, ça serait sûrement un pêle-mêle de plusieurs marques.
Ouais.
Mais aujourd'hui, je serais incapable, surtout que chaque hôtel est quand même très différent en termes de décoration, en termes de vision, en termes d'univers. Donc, il y a des univers assez différents. C'est clairement, on partirait pas dans un truc trop luxe, ni dans un truc trop bas de gamme. Voilà, donc une marque lifestyle, moyenne gamme. Et j'aime bien les marques qui ont des boutiques assez poussées, quoi, tu vois, forcément. Ou les boutiques qui changent à chaque fois. Par exemple, c'est pas forcément mon style de vêtements, mais j'ai une marque que j'adore, c'est Zadig & Voltaire, justement, parce que je trouve que leurs boutiques sont magnifiques, vraiment. Et je trouve qu'à chaque fois, ils vont chercher des nouvelles personnes, des nouveaux décorateurs, et je trouve que les choix sont assez bons et sont hyper audacieux. APC aussi, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est toujours le même architecte, mais qui arrive à chaque fois à me surprendre, et je trouve ça hyper intéressant. Voilà.
Très bien. Parfait. Et ma dernière question, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Qui je souhaiterais entendre ? Je sais pas, plus des décorateurs, plus des gens du lifestyle. Par exemple, il y a un type que je te recommande qui est extraordinaire, c'est Luke Edward Hall, le dernier décorateur qui a fait les deux gares.
Ok.
Bon, il faut aussi en anglais. Mais franchement, c'est un mec qui a un univers incroyable. Et qui est hyper intéressant et qui a une vraie vision de la déco, du lifestyle et tout ça.
Comment t'as réussi à le convaincre d'ailleurs de partir avec toi ? Un gros chèque ?
Non, pas du tout. Écoute, c'est un ami qui nous a présenté. Ouais. C'est un type qui s'appelle Julien Decelle qui nous a présenté. Et écoute, j'en sais rien, mais on s'est rencontrés. J'ai adoré son univers. Je pense que le fit est assez bien passé. C'est pareil, c'est-à-dire que j'ai une petite chance, étant dans l'hôtellerie, pour un décorateur, c'est un peu le entre guillemets le Saint Graal. Donc, j'ai pas forcément besoin de survendre à chaque fois, mais voilà l'exercice. Je pensais pas que, tu vois, la Gare du Nord, au début, je me suis dit, parce que c'est vraiment Gare du Nord, c'est particulier. J'étais pas sûr de moi qu'il allait accepter, et en fait, il a adoré parce que Gare du Nord, parce que c'est l'Eurostar, parce que voilà, il y a tout un univers autour de ça. Mais voilà, c'est je pense que c'est plutôt une rencontre, et je pense qu'à chaque fois qu'il fait un travail ou une collaboration, comme souvent les décorateurs et tout ça, c'est parce qu'on s'entend bien avec les gens, et donc
sûr. Voilà. Parce que c'est long en plus quand même, non,
il y a un sacré boulot, c'est des projets, ça a dû durer un an et demi.
Ouais, c'est lourd.
Tu vois, entre la préparation du projet, le mood board, l'avant chantier et après le chantier. Alors pendant le chantier, lui, il est pas forcément là tout le temps. Parce que c'est son intervention est plus ponctuelle, mais après il revient à la fin du chantier les deux derniers mois pour vraiment la dernière patte, les finitions et tout ça. Donc c'est voilà.
Ok, très bien. Et ben on finit sur ces mots. Merci infiniment pour ton
Merci
temps
à toi,
et
j'étais
pour ton expérience. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.